VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 22 janvier 2020. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Second jour du procès en destitution du président américain Donald Trump, ce mercredi à Washington, après une âpre bataille sur les règles de ce procès au Sénat.
Au Burkina Faso, deuil national après la mort de 36 autres civils dans une attaque djihadiste contre des villages du Nord.
Au Niger, rapport d'OCHA sur le nombre de déplacés internes dans la région de Tillaberi après de récentes attaques contre des positions militaires.
Et en République centrafricaine, selon le même bureau des affaires humanitaires de l'ONU, plus de la moitié de la population a besoin d'assistance et de protection humanitaire.
Un premier cas de coronavirus chinois aux États-Unis, près de Seattle, selon les centres de contrôle et de prévention des maladies.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Actualité oblige, poursuite aujourd'hui ici à Washington, des débats au procès en destitution du président Donald Trump. Ils se sont ouverts hier devant le Sénat par une âpre bataille sur les règles de ce rendez-vous historique, les démocrates accusant les républicains d'organiser l'acquittement au pas de charge de M. Trump. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le chef de la majorité républicaine Mitch McConnell a introduit d'entrée de jeu une résolution pour encadrer ce procès. Il a prévu 3 journées de 8 heures en moyenne pour l'accusation et autant pour la défense afin qu'elles exposent leurs arguments, puis 16 heures de questions des sénateurs. Mais avant de se pencher sur l'acte d'accusation pour abus de pouvoir et entrave à l'enquête du Congrès adopté en décembre par la Chambre des représentants à majorité démocrate, ils ont engagé un rude bras de fer sur les règles du jeu. Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a introduit plusieurs amendements pour obtenir immédiatement des témoignages et documents qui ont prolongé les débats tard dans la soirée. Les 7 premiers amendements ont été rejetés selon des lignes partisanes. Les 53 sénateurs républicains ont voté contre, les 47 démocrates pour. Auparavant, l'élu Adam Schiff, chargé de porter l'accusation, a reproché au camp présidentiel d'organiser un procès truqué au Sénat quand les républicains estiment que les démocrates avaient conduit une enquête truquée à la Chambre des représentants. La pomme de discorde, la question cruciale des témoins clés que les démocrates veulent convoquer et des documents qu'ils exigent de la Maison-Blanche, du département d'État et du ministère de la Défense. Les républicains veulent repousser toute décision là-dessus à plus tard dans le processus après la séance de questions.
L'actualité dans le reste du monde a commencé par l'Afrique, on l'a appris hier. Au Burkina Faso, 36 civils ont été tués et 3 blessés lundi lors d'une attaque contre des villages de la province du San Matenga dans le nord du pays. Le gouvernement parle d'une attaque terroriste et a décrété un deuil national. Le point avec Bagassi Koura.
Selon le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Danguinou, lundi 20 janvier 2020, un groupe armé terroriste a fait irruption dans le marché de Nagraogo et a abattu 32 personnes, brûlé le marché, puis dans son repli a abattu 4 autres personnes au niveau du village d'Alamou. Cette attaque a également fait 3 blessés, précise le ministre. Des centaines de personnes ont fui la zone pour se réfugier dans la ville de Kaya, selon des témoins. La province du San Matenga, située juste au-dessus de la province du Soum, frontalière avec le Mali, de nombreux camps de réfugiés et déplacés internes. Le président Rochmark Christian Kabore a décrété un deuil national de 48 heures allant du mercredi 22 janvier au jeudi 23 janvier. Durant cette période, les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics. Les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdites, précise le communiqué du gouvernement. Le Parlement burkinabé a adopté hier à l'unanimité une loi permettant le recrutement de volontaires locaux dans la lutte antiterroriste.
Nous reviendrons sur cette loi avec notre correspondant Kader Traoré en seconde partie de cette édition.
Au Niger, 5527, c'est à ce jour le nombre de déplacés internes dans la région de Tillaberi en raison principalement des attaques des positions militaires d'Inates et de Chénégodar. Le Bureau de coordination des actions humanitaires de l'ONU, OCHA, a publié à ce sujet un bulletin que nous résume notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le plus grand nombre de personnes déplacées internes a été enregistré dans les départements de Wallam, Bani Bangou, Ayeru et dans la localité de Tichguel, selon un bulletin publié par OCHA. Les premières vagues sont arrivées à Wallam, à 90 km de la capitale Niamey, le 14 janvier. À ces personnes déplacées, il faut ajouter, selon toujours OCHA, le cas de 236 ménages nigériens qui ont traversé la frontière pour s'installer au village malien de Andéramboukan, situé à 18 km de Sinégoder. Selon les acteurs humanitaires sur le terrain, ces mouvements de population qui continuent pourraient prendre de l'ampleur dans les prochains jours. La psychose grandissante des attaques et de violences perpétrées par des éléments des groupes armés non étatiques va inciter beaucoup de personnes à se déplacer pour trouver refuge dans des endroits plus sécurisés. Abris, eau, hygiène et assainissement, mais aussi des sites d'accueil viabilisés au regard de la promiscuité dans laquelle vivent ces personnes sont les besoins pour l'instant identifiés par les acteurs humanitaires, dont le plus grand défi reste l'accès aux populations, les mesures d'état d'urgence en vigueur dans la région ainsi que l'imposition d'escortes militaires visant les missions humanitaires, le tout dans un climat d'insécurité, freine sérieusement la réponse, conclut le bulletin. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Sonnette d'alarme au Docha, en République centrafricaine aussi, selon le Bureau des Affaires humanitaires des Nations Unies. Plus de la moitié de la population, soit 2,6 millions de personnes, a besoin d'assistance et de protection humanitaire. Et environ 1,6 million de ces personnes sont en situation extrêmement vulnérable. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
La communauté humanitaire appelle à la mobilisation de 401 millions de dollars pour mettre en œuvre des interventions vitales, souligne le Bureau des Affaires humanitaires dans un communiqué marquant le lancement du plan de réponse humanitaire 2020 pour le pays. La Centrafrique est toujours déchirée par un conflit qui a forcé près du quart de ses habitants à fuir le pays. Même si les violences ont considérablement baissé depuis la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés, les exactions contre les civils et les affrontements entre milices se poursuivent alors que deux tiers du territoire échappent toujours au contrôle du pouvoir central. Des contraintes sécuritaires et logistiques continuent d'entraver l'accès aux personnes vulnérables, rappelle OCHA, indiquant qu'en 2019, 306 incidents de sécurité ont touché des travailleurs humanitaires, tuant 5 d'entre eux et en blessant 42. Si l'assistance n'est pas fournie à grande échelle, la situation humanitaire déjà critique va se dégrader davantage, selon Madame Brown, coordonnatrice humanitaire en République centrafricaine pour l'ONU.
En Guinée, il y a eu de nouvelles manifestations lundi et mardi. Le Front national pour la défense de la Constitution a appelé à une résistance dans tout le pays. Hier, des violences ont été signalées à Conakry, la capitale, et dans plusieurs autres localités. Le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
Des journées de résistance citoyenne, c'est ce que demande le FNDC à ses militants depuis l'ultime marche du 6 janvier. Mardi, la capitale guinéenne a été partiellement paralysée. Des barricades ont été érigées à Conakry, à mes endroits, sur l'autoroute Le Prince. Selon un communiqué du gouvernement, sept véhicules ont été incendiés. Les autorités guinéennes ont annoncé une persistance des attaques contre les édifices publics. À Dalaba, à 264 km de la capitale, le commissariat central de police a été saccagé, pillé, des armes emportées, la prison civile cassée et 17 prévenus placés sous mandat de dépôt libérés selon le ministère guinéen de la Sécurité. De son côté, le FNDC déplore une dizaine de blessés et plusieurs arrestations. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Un homme d'une trentaine d'années a été hospitalisé à Everett, près de Seattle, ici aux États-Unis, avec le nouveau coronavirus chinois. Il était arrivé à l'aéroport de cette ville le 15 janvier par un vol indirect depuis Wuhan. C'est ce qu'ont annoncé mardi les centres de contrôle et de prévention des maladies, les CDC, confirmant le premier cas aux États-Unis, dernier pays touché par après la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande et Taïwan.
Et le bilan du nouveau coronavirus s'est encore alourdi mercredi en Chine, où les autorités ont fait état de 9 morts et averti que le virus pourrait muter et se propager plus facilement. Un comité ad hoc de l'Organisation mondiale de la santé se réunit ce mercredi pour déterminer s'il convient de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale, comme l'OMS l'a fait récemment, c'est-à-dire depuis 2018, avec la fièvre Ebola en République démocratique du Congo. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Eco, Nani Talani.
La société espagnole Actividades de Construcción y Servicios se retire du projet hydroélectrique Inga 3 en République démocratique du Congo, mettant en péril l'avenir de ce qui serait la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique. Le groupe ACES n'a fourni aucune explication sur son retrait. En 2018, l'entreprise a signé un accord préliminaire pour développer conjointement le projet de 1100 MW, mais les développeurs espagnols et chinois n'ont pas pu s'entendre sur la marche à suivre pour la construction. La société britannique BP a signé un accord avec l'Angola visant à acquérir de nouveaux droits d'exploration sur le pétrole, rapporte l'agence de presse nationale Angop. L'accord définit les termes du contrat de partage des risques sur un bloc pétrolier offshore. BP est déjà partenaire de la production en cours dans un bloc appelé Greater Plutonio Development. La semaine dernière, l'Italien Eni, le Français Total, Equinor et BP ont obtenu des droits pour développer plusieurs blocs offshore. Pour terminer, la société australienne pétrolière Phare annonce avoir aligné un financement de 4,2 milliards de dollars pour sa participation dans le projet Sangomar, le premier bloc de développement pétrolier du Sénégal. Elle a aussi décidé finalement de procéder au contrat de forage, de construction et d'installation sous-marine, suivant l'avis émis par Woodside, exploitant du projet. Celui-ci est une co-entreprise entre Woodside Petroleum, Cairn Energy, Phare et Petrosen, une entreprise publique sénégalaise.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Coup double hier pour Natnael Tesfazion, la Tropical Amissa Bongo.
Oui, l'Érythréen a remporté la deuxième étape de cette 15e édition courue hier entre Bitam et Oyem, 110 km. Il a endossé du même coup le maillot jaune. Le champion d'Afrique Mekseb Dibessé semblait avoir pourtant pris le bon bout de cette course en lançant une échappée à 50 km de la ligne d'arrivée. Il s'est fait ensuite rattraper puis dépasser. Au classement général, Tesfazion ravit le maillot de leader à l'italien Aitilio Viviani, vainqueur lundi. Il devance son compatriote Yemane Regigui de 5 secondes. Place aujourd'hui à la troisième étape entre Mitzik et Ndjoulé, 180 km.
Karl Toko Ekambi prêté à Lyon jusqu'en juin.
Karl Toko Ekambi a rejoint l'Olympique lyonnais sous la forme d'un prêt en provenance du club espagnol de Villarreal. Cette mutation temporaire d'un montant de 4 millions d'euros est assortie d'une option d'achat de 11,5 millions d'euros. Pourquoi le choix de Lyon? Eh bien, l'international camerounais de 27 ans explique.
L'hésitation ne s'est pas faite parce que c'était Lyon. Je pense que ça ne se refuse pas. C'est vrai que la Liga est l'un des meilleurs championnats du monde, mais j'ai joué au championnat de France. Je suis né en France. Je ne peux pas dire que le championnat de France est décrié parce que j'y ai joué. C'est un championnat très compétitif. Et Lyon a toujours su faire le boulot et toujours su être dans les places qualificatives européennes. Donc c'est vraiment un plaisir de rejoindre ce club qui, pour moi, fait une bonne saison et qui est encore qualifié sur les quatre compétitions.
Karl Toko Ekambi, attaquant lyonnais. Toujours au titre des transferts, l'Algérien Nabil Bentaleb a signé à Newcastle en Premier League pour 6 mois, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Il arrive de Schalke 04 en Allemagne, où il a été mis à l'écart pour des raisons disciplinaires. De son côté, l'international congolais Paul-José Mpoku a quitté le club belge du Standard de Liège pour s'engager avec Al-Wahda aux Émirats Arabes Unis.
Le Mexicain Chicharito Hernandez signe avec les Los Angeles Galaxy.
L'attaquant mexicain du FC Séville a été transféré aux Los Angeles Galaxy de la MLS américaine. Chicharito aura pour mission de combler le vide laissé par le Suédois Zlatan Ibrahimovic, qui a signé en décembre avec l'AC Milan. Selon le magazine Sport Illustrated, Hernandez touchera 6 millions de dollars, soit le salaire le plus élevé pour un footballeur de la MLS. Arrivé l'été dernier à West Ham, le joueur mexicain de 31 ans, qui a aussi porté les couleurs de Manchester United et du Real Madrid, met ainsi un terme à une étape de seulement 5 mois à Séville. L'attaquant n'a joué que 15 matchs cette saison, marquant 3 buts sous la houlette de l'entraîneur Rulen Lopetegui. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Un seul match hier soir et c'était entre les LA Clippers et les Dallas Mavericks. LA a gagné de justesse 110 à 107.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seroudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ici à Washington, le Sénat poursuit aujourd'hui son procès en destitution du président Donald Trump, accusé d'abus de pouvoir et d'entrave à l'enquête du Congrès. Pour en parler, Abdulrahman Dia a joint ici à Washington Herman Cohen, ancien secrétaire d'État américain, secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique.
Le président du Sénat, c'est-à-dire de la majorité républicaine, le sénateur McConnell, il a ouvertement dit qu'il veut que président Trump soit acquitté, c'est-à-dire sans avoir écouté les arguments, McConnell a dit, pour moi, il est innocent. Donc, il a organisé les procédures pour aider à arriver à cette conclusion qu'il est innocent.
Le démocrate dénonce un peu la procédure qu'il veut mettre en place avec des débats qui vont se dérouler jusque tard dans la soirée. Les démocrates pensent que c'est pour éviter que le public ne regarde les débats et les arguments.
C'est vrai, mais aussi les démocrates croient qu'il faut avoir des témoins. Il y a certains témoins qui n'étaient pas présents pendant les discussions dans la Chambre, mais maintenant ils sont disponibles. Par exemple, M. John Bolton, l'ancien conseiller pour la sécurité, il sera empêché de témoigner et il veut témoigner. Mais il y a un petit nombre de républicains qui risquent de voter avec les démocrates pour changer les procédures. Tout ce qu'il faut, c'est 4 républicains pour changer de place et voter avec les démocrates. Donc, c'est pas encore terminé les procédures. Je crois qu'il y aura un grand débat là-dessus.
Également, les avocats du président demandent au Sénat de l'acquitter immédiatement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'a pas de chance d'aboutir, cette requête, n'est-ce pas?
Non, pas du tout. Et ce sera une conclusion que le président est coupable.
Il y aura au moins le débat.
Il faut un débat pour arriver là. Si vous voulez l'acquitter, et quand même, il faut écouter le débat. S'il n'y a pas de débat, il est coupable.
Mais il sera certainement acquitté à la fin, de toute façon, n'est-ce pas?
Il sera acquitté, mais ce sera un problème pour lui dans la prochaine élection. Avec ça derrière lui, qu'il était inculpé, etc., ça va lui faire du tort pour la prochaine élection, à mon avis.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de la décision du président de recruter des avocats très connus à la télévision? C'est une bonne stratégie pour lui?
Oui, c'est pas mal, parce que ça peut aider Trump devant l'opinion publique. C'est une bonne idée pour lui, dans ses intérêts.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique.
Abdulrahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, après l'étape de la composition des équipes et les prestations de serment, le procès en destitution du président Donald Trump entre cette semaine dans une étape historique, celle du lancement des débats au Sénat dominé par les Républicains. Ce procès est le troisième de ce genre dans l'histoire des États-Unis. Quelles sont les implications politiques de ce procès? Aura-t-il un impact sur les élections de novembre? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a adopté hier une loi instituant des volontaires pour la défense de la patrie. À l'unanimité, les 122 députés présents ont dit oui à cette loi qui permettra à tout citoyen de se porter volontaire pour mener aux côtés des forces de défense la lutte contre les terroristes. De Ouagadougou, notre correspondant Kader Traoré.
Suite à l'attaque d'un convoi de la mine d'or de la société Semafo en novembre dernier, le président Roch Kabore avait annoncé le recrutement des volontaires au sein des populations civiles pour participer à la défense de la patrie. Ce projet vient de passer devant les parlementaires burkinabés qui l'ont adopté à l'unanimité par les 122 députés votants du jour. C'est une disposition légale qui définit le volontaire pour la défense de la patrie comme une personne de nationalité burkinabé, auxiliaire des forces de défense et de sécurité, servant de façon volontaire les intérêts sécuritaires de son village ou de son secteur de résidence en vertu d'un contrat signé entre le volontaire et l'État. Devant la montée de la menace djihadiste qui endeuille chaque jour des populations burkinabées, il fallait envisager autrement la lutte afin de sécuriser le pays.
Donc je dirais que je suis en réalité satisfait.
Emmanuel Lankwande est député au sein du Nouveau Temps pour la démocratie, parti de la majorité présidentielle.
Je pars du postulat que ce sont les populations elle-même, en réalité, qui peut s'organiser pour véritablement contrer donc ce phénomène-là.
L'opposition politique burkinabé est du même avis. Moussa Zerbo est député de l'UPC, l'Union pour le Progrès et le Changement.
Il s'agit ici d'une question d'intérêt national, une question de survie même de notre nation, raison pour laquelle nous n'avons pas hésité un seul instant. À partir du moment où nos préoccupations ont tout cela a été pris en compte, c'est pour cela que nous avons donné notre OK pour son adoption.
Ce projet de loi a été porté devant l'Assemblée nationale par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants.
Cette loi a été votée à l'unanimité du Parlement, ce qui est rare parce qu'il n'y a eu ni abstention ni de vote contre.
Chérif Sy, ministre de la Défense nationale et des Anciens Combattants.
Cela traduit aussi qu'au-delà de nos sensibilités, au-delà des divergences que nous pouvons avoir par rapport à certaines questions de gouvernance, nous pouvons faire bloc en ce qui concerne la défense de la patrie. Donc c'est la première chose que nous retenons par rapport à cette loi. La prochaine étape, c'est que vous vous inscriviez, que vous vous fassiez recruter comme volontaire et que nous vous formions et que nous vous encadrions sur le terrain.
Beaucoup de Burkinabés se posaient la question de savoir comment serait traduite en acte cette décision du chef de l'État prise il y a 2 mois. Désormais, les contours de cet enrôlement libre et volontaire sont donc fixés. Kader Traoré, Ouagadougou, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Togo, à un mois du premier tour de la présidentielle du 22 février, l'opposition peine à s'entendre sur une stratégie commune. Si d'un côté on estime que seule une candidature unique de l'opposition peut garantir l'alternance dans le pays en cette année 2020, de l'autre on mise sur l'invalidation de la candidature du président Faure Gnassingbé, doublée à des conditions de transparence, nous dit de Lomé notre correspondante Kay Lawson.
Combien de candidats seront face à Faure Gnassingbé le 22 février prochain? Pour l'archevêque émérite de Lomé, Mgr Philippe Baudreau, la question ne se pose pas. Il estime que le candidat Agbéomé Kodjo, à qui il a donné son onction, doit être le seul. Ainsi, le prélat appelle les 5 autres candidats de l'opposition à s'aligner derrière Agbéomé Kodjo pour donner le coup de grâce au président sortant. Mgr Baudreau insiste sur l'unicité de la candidature de l'opposition.
Cette année 2020, aucune défaite n'est envisageable et seule l'union peut nous l'assurer, car un seul candidat contre Faure Gnassingbé est la meilleure garantie de l'alternance pacifique au Togo.
Un appel qui visiblement irrite le candidat de l'Alliance nationale pour le changement. Nous écoutons le candidat Jean-Pierre Fabre de l'ANC.
On ne pouvait pas prétendre faire de la démocratie et choisir des candidats. Les candidats, c'est le peuple qui les choisit. Les Béninois ont 83 candidats contre le candidat du parti au pouvoir et le parti.
On a perdu combien de temps à parler de candidature unique?
Vous avez constaté, depuis qu'on en discute, qu'il arrivera un moment où on tombera d'accord. Si vous n'avez pas constaté, abandonnez.
Si le consensus autour d'une candidature unique de l'opposition fait défaut, les candidats sont d'accord à œuvrer ensemble pour arracher des conditions électorales démocratiques pour l'avènement de l'alternance au Togo. Agbéomé Kodjo, candidat à l'élection présidentielle.
Nous nous soutenons tous avec un seul objectif, l'alternance. Ce qui nous lie, nous, c'est de tout faire pour donner donc à la population togolaise son entrée.
alternance en 2020. Là-dessus, entre nous, candidats, nous sommes prêts à faire tous les sacrifices.
Il est à noter que le candidat Jean-Pierre Fabre a déposé ce 20 janvier un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour l'annulation de la candidature de Fornia Singbe. Le candidat de l'ANC estime que cette candidature du président sortant, qui brigue un quatrième mandat, viole l'article 59 de la Constitution togolaise qui dispose que le président est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Kailson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Nigeria, les femmes enceintes continuent de mourir en accouchant et beaucoup d'enfants décèdent immédiatement après leur naissance. Et ce, malgré les progrès de la médecine. La situation est pire dans certains camps de déplacés où les femmes n'ont pas accès aux soins médicaux durant la grossesse. Reportage de Gilbert Tamba.
Devant quelques dizaines de femmes en grossesse, Ngassi Obimnebo discute des bonnes pratiques et leur donne des conseils élémentaires à suivre pendant la période prénatale. La jeune dame infirmière se considère tous les jours en mission de sauvetage. Ngassi Nebo et son équipe de 5 infirmières sont venues aujourd'hui dans le camp de déplacés de Kouchingoro à la périphérie d'Abuja, la capitale fédérale. Pour cette journée de consultation, l'infirmière et sa suite occupent un des conteneurs offerts par la fondation Nelson Mandela, déjà en état d'abandon.
Elles n'ont pas d'opportunité d'effectuer leur consultation prénatale. La période prénatale est l'un des moyens les plus importants de s'occuper de la femme et de son bébé qui doit naître. Donc, nous avions décidé d'offrir à ces communautés au moins 4 différents services de prise en charge pour ces femmes qui représentent la base établie par l'OMS.
Chassées de leur localité d'origine dans le nord-est, ces femmes dans ces camps de plus de 3000 personnes n'ont pas accès à un centre de santé ni à des soins réguliers. Rares sont les familles dans ce camp qui n'ont pas perdu une femme en couche ou un bébé pendant ou après l'accouchement. Il y a quelques mois, Queen Frade a perdu son bébé pendant l'accouchement.
Nous sommes allés à l'hôpital et le médecin a dit qu'il y avait un problème. Je ne peux pas accoucher jusqu'à ce qu'une césarienne soit effectuée parce que les jumeaux ont été mal positionnés et je pourrais mourir si je dois accoucher. J'ai accepté la césarienne et l'un des jumeaux est décédé pendant l'opération tandis que l'autre a survécu.
Les femmes en état de grossesse sont souvent obligées de parcourir des kilomètres à pied ou à moto pour se rendre dans une structure sanitaire de proximité. Miri Zakaria a aussi perdu son enfant dans ce camp dès après sa naissance.
Quand j'étais près d'accoucher, je suis allée à l'hôpital. J'ai passé toute la journée dans les douleurs. Je pensais que j'allais mourir. Juste avant 16 heures, j'ai accouché d'un petit garçon. Et il est mort instantanément.
Au Nigeria, plus de 100 femmes meurent chaque jour pendant l'accouchement, selon l'UNICEF. Entre 86 et 90% des femmes, surtout dans les zones rurales, n'ont pas accès à un accouchement assisté à la maison. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Toujours et toujours, Jackie Reagan, François Seban, toute la reconnaissance et la sympathie d'Ajimako.
On m'avait dit que yo, ma petite nanae, avait levé des moubas pour des nains. On m'avait dit que ma petite nanae, avait levé des moubas pour des nains. On m'avait dit que yo, ma petite nanae, avait levé des moubas pour des amaris. On m'avait dit que ma petite poupée avait levé des moubas pour des. la bébé de mon bongo. Mais moi je suis dérangé, oh, mais moi je suis embêté. Yo la bébé de mon bongo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.